2. Jeu de dupe. L'archer leva 3 doigts. Le juif en leva 2. L'archer lui cracha au visage. Le juif essuya sa barbe. L'archer leva 3 doigts. Le juif en leva 2. L'archer lui détacha un soufflet. Le juif leva 3 doigts. Aloysius Bertrand. Au bout d'une heure de chevauchée, les 4 cavaliers rejoignirent le campement de Bantraet. Aux portes de l'enceinte noircie, ils furent accueillis avec soulagement par leurs servants et les sergents d'armes de Kimark. Les ruines de la fortification abritaient, écuyers et pages compris, une 30aine de combattants et davantage de chevaux. Retranchés derrière l'enceinte délabrée, les gens de guerre pouvaient tenir en respect des bandes barbares 2 à 3 fois plus nombreuses. La position, en revanche, aurait été difficile à défendre si tout un clan lui avait donné l'assaut. Bantraet avait été de ces castels, nombreux sur la marche frontière, qui servaient à surveiller les incursions de pillards dans la vallée de la Claye. La place n'avait rien d'impressionnant. À vrai dire, c'était à peine plus qu'une maison forte. Une grosse tour et une tourelle flanquaient un corps de logis et sa cour, ceint d'une muraille modeste. Comme bon nombre de ces petits fiefs tenus par des vavasseurs ou de simples baillis, ils servaient plus à mailler un territoire menacé qu'à réellement le défendre. La position de Bantraet lui donnait pourtant une certaine importance. Construite sur une butte modeste mais isolée, la place surveillait à la fois le golfe de Vicksund, au nord-ouest, et toute la plaine de Brekezan, jusqu'à l'estuaire de la Claye, au sud. La route côtière allant de Ross Minor à Vikingsburg passait à quelques portées d'arc. Depuis ce qui restait du chemin de ronde, on distinguait fort bien, dans le lointain, les tours de la cité conquise par les Ouromans. De ce châtelet si bien situé, il ne restait guère que de hauts murs couverts de suie, dont fenêtres et archères béaient sur le ciel. Au cours de ce printemps funeste, les flux et reflux de la guerre l'avaient battu et rebattu de ses marées de fer. Juste après la chute de Vikingsburg, la horde ouromande l'avait pris d'assaut et mis à sac. 15 jours plus tard, à la suite du beau succès remporté par les armes bromaloises à Ross Minor, l'armée ducale revenait le libérer. Victoire sans lendemain. Le soir même, la chevalerie était écrasée à la bataille d'Aberbechan. L'arrière-garde ducale devait défendre 2 jours encore Bantraet, avant de plier devant l'ennemi. En retardant l'offensive barbare, ce baroud avait permis à Ganelon de Bromel d'échapper au désastre. Mais le château avait brûlé quand les Artclyde l'avaient finalement reconquis. La destruction de la place, en un sens, avait représenté une triste opportunité pour la délégation de Kimark. Les barbares avaient abandonné le site après l'avoir incendié. Quand les émissaires du comte avaient gagné le pays de Brekezan, ils avaient pu se retrancher dans ses ruines avec l'or de la rançon. Chez les gens de guerre, la joie d'assister au retour des chevaliers fit rapidement place à la surprise et à la déception. Écuyers et sergents avaient d'abord cru que le 4e homme était Claudas de Kimark. Découvrant un inconnu vieillissant, encore chargé de fer, en lieu et place du fringant fils du comte, les archers eurent du mal à cacher leur déception. Seul Nem et le petit Kell, une fois qu'ils l'eurent reconnu, firent bon accueil aux frères Vinmer. À peine avait-il sauté de selle, le sire de Froeg voulut interroger l'homme dont il venait de racheter la liberté. Eddan de Vaumacel le pria de montrer un peu de courtoisie et d'attendre à tout le moins que le malheureux, délivré de ses entraves, eût pu se restaurer. Le banneret accepta de mauvaise grâce, tout en bouillant d'impatience. Il mit toutefois ce délai à profit pour attirer à l'écart le sire de Vaumacel et le chevalier Opi, dans les vestiges carbonisés du Tinel. Sitôt qu'il se considéra assez loin des oreilles indiscrètes, il s'adressa à ses pairs. « Je viens de soustraire 210 ducats à la rançon de Monseigneur Clodas pour le rachat d'un prisonnier dont je ne sais rien. Sire Edan, j'ai agi en me fiant à votre seul jugement. Me confirmez-vous qu'il s'agit d'un prud'homme, digne de foi ?
Sur mon honneur, Sire Gérien, le frère Vinmer est un homme hospitalier plein de sagesse et de miséricorde.
Si tel est votre avis, il est aussi le mien, concéda le chevalier de Froek. Cependant, sa mine démentait la confiance qu'exprimaient ses paroles. L'air soucieux, il se tourna vers le chevalier au pis. Malgré sa fermeté ordinaire, Gérien de Froek prit visiblement sur lui pour soutenir l'étrange regard d'Ambre.
Des mots blessants ont été prononcés à votre encontre, Sire Ameline, poursuivit le banneret. Je salue d'ailleurs votre tempérance en la matière. À votre place, j'aurais peut-être réagi plus vivement. Cependant, et je vous prie de ne pas le prendre en mauvaise part, je suis troublé. Le chevalier de Vaumacel répond de l'homme que nous venons d'élargir. Que ce rescapé soit membre de l'ordre du Sacre donne du poids à sa parole. Or, il vous a fort vilainement accusé. Comment expliquez-vous ce reproche ?
Je ne me l'explique en rien, répondit tranquillement le chevalier au pis. À moins que je ne me l'explique que trop.
J'ai du mal à vous suivre. Qu'entendez-vous par là ?
Des contes emplis de venin accusent les belles gens de mille maux. C'est infortuné, sergent. Leur aura prêté une oreille crédule.
Ces insinuations ne seraient fondées que sur la rumeur.
Sondez donc son jugement. Vous verrez vous-même s'il se fait les mules de calomnies insensées.
Gérien de Froek hocha la tête, exprimant un accord de façade avec ce conseil de bon sens. Le chevalier de Vaumacel demeurait silencieux. Il écoutait l'échange en laissant errer son attention sur les parois noircies et les charpentes calcinées qui les entouraient.
« Cela étant, reprit uniment le sire de Froek, vous avez bien rencontré le roi Hartclyde.
En effet, le chef ouroman m'a reçu.
Ce prisonnier vous a-t-il vu ensemble ?
En cette cour débraillée, rites et protocoles sont mal tenus. Otages comme invités frais ensemble, dans un grand laisser-aller. Je ne puis donc écarter l'hypothèse qu'on ait mal interprété ma présence auprès du roi.
N'avez-vous proféré aucun propos qu'on pourrait retenir contre vous ?
J'en ai hélas tenu contre le bon goût. Ces malotrus au front bas s'ingénient à se montrer grossiers en tout.
Mais auriez-vous pu, même par inadvertance, livrer à Ferbassac des renseignements à son avantage ?
Je lui ai assurément raconté mon content de Calambreden. Ces merveilleux boniments portent en germe des convenues et peines.
Alors ce sont peut-être ces fantaisies que le frère Vinmer aura prises pour de la trahison.
Arga le sire de Vaumacel en paraissant revenir à la conversation. Le chevalier au pis lui coula un sourire équivoque. Gérien de Froek opina à nouveau de la tête avec peut-être plus d'obligeance que de conviction.
Sire Ameline, reprit-il, verriez-vous quelque objection à ce que nous conversions sans vous, avec ce frère sergent ? Ce pourrait être embarrassant pour vous de l'entendre médire sur votre compte.
Qu'il parle tout à son aise. Je doute que dans ses affabulations, vous trouviez rien qui me lèse.
Après ce bref conseil, les trois chevaliers revinrent parmi leurs gens. Dans un coin de la cour qui avait été relativement épargné par le feu, étaient dressées deux tentes. Le petit pavillon d'un goût exquis du chevalier Opi et l'abri plus sobre du chevalier de Froek, partagé avec le sire de Vaumacel. Les chevaliers se firent d'abord désarmer en extérieur par leurs servants. Edan de Vaumacel profita de l'occasion pour se renseigner auprès de son écuyer et de son page.
« Avez-vous pu parler avec le frère Vinmer ? »
S'enquit-il.
Où l'avez-vous déniché ?
Repartit étourdiment le petit Kell.
Que trafiquait-il chez les barbares ?
Sa curiosité lui valut une calotte assez sèche de la part du vieux Nem.
Ce n'est point ainsi qu'on répond à son seigneur, gourmanda-t-il.
Puis reprenant le dévêtement du harnois, l'écuyer soupira.
Ce vaurien est incorrigible.
En votre absence, il a monté les pages de Sir Hamelin l'un contre l'autre. Ils en sont si bien venus aux mains qu'il a fallu les séparer.
Quel, je n'apprécie guère que tu retombes dans ces vilains travers,
dansa le chevalier.
Nous en reparlerons. Mais vous n'avez pas répondu à ma question.
À vrai dire, le frère Vinmer n'a pas été loquace, dit Nem. Nous l'avons accueilli avec un mélange de surprise et d'égard. Je lui ai donné des vêtements propres, et ce garnement lui a apporté une collation. Mais c'est à peine s'il nous a remerciés. Je crains que sa captivité ne l'ait fort éprouvé.
Où l'avez-vous installé ?
Dans la tente de Sir Gérian. J'ai pris sur moi de lui proposer votre couche.
Tu as bien fait.
Je crains hélas que nous ne lui laissions guère le loisir de se reposer.
Lorsque les chevaliers furent désarmés, ils se rafraîchirent rapidement. Puis, les sires de Froek et de Vaumacel rendirent visite au sergent de l'ordre. Le chevalier Opie, de son côté, se retira dans son pavillon, où il prit plaisir à taquiner ses pages à propos de leur querelle. Dans la tente du chevalier de Froek, le frère Vinmer était assis, l'air abattu sur le lit de corde que partageaient d'ordinaire Edan de Vaumacel et Nem. L'écuyer lui avait cédé un costume de voyage. Nageant un peu dans ses habits propres, le vétéran avait l'air encore plus hirsute et amaigri que dans ses haillons de prisonnier. Les fers dont on venait à peine de le soulager avaient laissé des croûtes et des hématomes sur ses poignets, et il gardait la nuque et les épaules basses. À peine avait-il touché à l'encas que lui avait servi Kell. En revanche, il achevait de vider une gourde de vin. Ce fut à peine s'il gratifia ses libérateurs d'un regard lorsqu'ils le rejoignirent sous le pavillon.
« Vous devriez manger davantage, »
dit Nem, qui était entré à la suite des chevaliers.
« Vous n'avez plus que la peau sur les os. »
Docilement, le frère sergent tendit la main vers le tranchoir de pain, mais ne s'en saisit point.
« Êtes-vous un peu remis, l'ami ?»
demanda Gérian de Froek.
« Pouvez-vous nous instruire de ce que vous savez à propos de Monseigneur de Kimark ?»
Le vétéran accepta d'un signe de tête.
« Pour commencer, échangeons nos noms et nos qualités. Vous connaissez Sir Edan, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés, vous et moi. Je suis Gérian de Froek, chevalier banneret de Kimark. J'ai été chargé par Monseigneur Anguzel de libérer Monseigneur Claudas contre rançon. » Et vous, qui êtes-vous ?
J'ai nom Vinmer. Après avoir reçu les ordres mineurs et le manteau de l'ordre du Sacre, j'ai longtemps servi sur les marches de la principauté dans plusieurs commanderies. Au bout de 20 ans, l'ordre m'a autorisé à rentrer sur ma terre natale. Je suis à présent tourier du doyenné de Goborchin, dans la seigneurie du Trèfle.
C'est à Goborchin au début du printemps que le frère Vinmer m'a donné quelques conseils fort utiles pour traverser les hautes terres d'Agurande,
précisa Edan. Le sergent de l'ordre acquiesça vaguement, comme s'il s'agissait d'un souvenir lointain ou sans importance.
Eh bien, louons le resplendissant qui nous a mis en présence d'un homme si pieux,
poursuivit le chevalier de Froek.
Maintenant que nous parlons entre gens de connaissance, permettez-moi d'aller droit au but. Vous nous avez dit en présence de vos geôliers que Monseigneur Claudas était sain et sauf. Le confirmez-vous maintenant que vous n'êtes plus sous le joug ?
Ce matin encore, Claudas était en vie.
Est-il en état de voyager ?
Oh, jusqu'à présent, le Seigneur Claudas a été bien traité. Tant qu'il était encore dans la ville, ce chien de Ferbassac l'invitait souvent à sa table. Encore que cette faveur ne veuille rien dire, le chef Hartclyde est un grand fourbe. Je l'ai vu tuer de sa main
un hôte qui l'avait couvert d'éloges.
« Venez-vous bien de dire que Ferbassac ne se trouve plus avec Innsberg ?»«
C'est probable. Voilà du moins ce que Claudas m'a confié. Hormis le jour de mon arrivée avec Innsberg, où j'ai hélas été mis en présence du chef barbare, j'ai passé le plus clair de mon temps dans un cachot. Ces derniers temps, le fils du comte partageait ma geôle. S'il n'en sortait plus, d'après lui, c'était parce que le roi Hartclyde était reparti en campagne.
« Étiez-vous son compagnon d'armes ?» reprit le chevalier de Froek. « Avez-vous été capturé avec lui sur le champ de bataille ?»
Le frère sergent répondit par la négative. « Je vous l'ai dit, grommela-t-il, je suis le tourier du doyenné de Gorborchin. Je ne fais pas partie de l'armée ducale. Je n'ai nullement participé au combat d'Aberbechan. »
Ses interlocuteurs ne purent dissimuler un mouvement de surprise.
« Mais si vous n'étiez pas engagé dans l'ost de Bromel, repartit Sir Edan, par quel coup du sort vous êtes-vous retrouvé dans une si mauvaise passe ?»«
J'ai bel et bien été capturé,
grommela Vinmer.
Mais pas ici. Avec un compagnon d'infortune, j'ai été enlevé non loin de Gorborchin, du côté de Verchère. »
L'étonnement des chevaliers s'accentua.
« Verchère ? » releva le sire de Froek. « Ce n'est pas très loin de Carwell. La seigneurie d'Ouchin est-elle déjà attaquée ?»«
Il y a un mois, les fiefs d'Ouchin et du Trèfle ont été attaqués, mais par les troupes de Vert. » La rumeur a couru que le seigneur de Vert voulait venger un attentat perpétré sur l'ancienne duchesse. En tout cas, des nouvelles terribles nous venaient de la haute vallée de l'Andoun. C'est en courant la campagne pour inviter un ermite à trouver refuge au doyenné que j'ai été capturé par une petite bande d'Ouromans. Ils s'étaient faufilés dans la contrée à la faveur des troubles.
« Les maudits chiens !»
s'emporta Gérion de Froek.
« Ils profitent de nos querelles pour mettre le pays en coupe réglée !»
Le chevalier de Vaumacel, quant à lui, demeurait perplexe.
« Pardonnez ma franchise, » dit-il. « Mais que vous voulez ces forbans ? Ceux qui trafiquent des esclaves s'emparent plutôt de victimes jeunes et faciles à contraindre. Or, vous ne correspondez guère à ce tableau. Pourquoi vous avoir ramené jusqu'à Vikingsburg à travers une contrée hostile ?
J'ai d'abord cru qu'il ne m'avait gardé en vie que pour épauler l'autre prisonnier. C'était sans doute le dessein des brutes qui nous ont enlevés. Mais une fois que nous avons été livrés au chef Hartclyde, ma situation a pris un tour différent. Je suppose que Ferbassac m'a épargné pour m'échanger.
L'armée ducale a-t-elle des prisonniers barbares ?
Demanda le sire de Froek d'un air incrédule.
C'est possible. À Rosmaenor, le duc a interrogé des vaincus. Mais je crois plutôt... Non, en fait, j'ai la certitude que Ferbassac a fait de moi un témoin. Il n'avait que le plus parfait mépris pour ma personne, mais c'est un homme rusé qui connaît le crédit que possède l'ordre dans la noblesse bromaloise. Je suis en quelque sorte son messager, plus digne de foi que ses ânes et ses guerriers. Il voulait que je vous sois remis pour vous dire que Claudas de Kimark est en vie. »
Le frère sergent avait prononcé ces dernières paroles sur un ton particulièrement sinistre, et son expression se ferma de façon presque hargneuse.
« Avez-vous partagé la captivité d'autres chevaliers avec Innsberg ?»
Sans qui Gérion de Froek.
Non, je crains qu'il n'y en ait guère. À ce que j'en sais, la bataille d'Aberbechan a fait beaucoup de morts.
Y avez-vous assisté ?
Non, je venais d'être jeté au cachot quand l'armée ducale s'est présentée devant la ville.
C'est ensuite Claudas qui m'en a parlé.
Pourriez-vous nous répéter ce qu'il vous a appris ?
Les rumeurs les plus folles et les plus contradictoires ont couru jusqu'à Neuvidine et Mormark. Mais il est difficile d'y démêler le vrai du faux.
L'amertume assombrit un peu plus la figure lasse du frère sergent.
Tout conspire à faire de moi un oiseau de mauvais augure, maugréa-t-il. Enfin, puisque telle est la volonté du resplendissant, voici ce que m'a rapporté le seigneur de Kimark. La marche de l'ost du Cal a d'abord été victorieuse. Il était encore en vue de Neuvidine quand il a repoussé les premières bandes ennemies. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour que mes propres ravisseurs soient rattrapés et étrillés par des chevaliers du duché. L'armée du Cal a rencontré la première horde ou romande à Rosmaenor. D'après Claudas, il y avait là au moins deux clans, les Isenvirta et les Slagsbroder. Ils assiégeaient le château. Ils se trouvaient sur le point de prendre les portes quand le banc de Bromel est arrivé à la rescousse. Les barbares ont abandonné le siège pour affronter l'armée du Cal en plaine. D'après Claudas, l'ennemi était presque aussi nombreux que les forces bromaloises. La bataille a été dure, mais les clans étaient mal commandés. Les nôtres ont arraché la victoire et ont fait un grand carnage. Ensuite, il semble que le duc ait voulu exploiter l'avantage. Il cherchait à profiter de la désorganisation et de la panique de l'ennemi. C'est probablement à ce moment qu'il a commis sa première erreur. Avec sa chevalerie, il a galopé vers Vekinsberg sans attendre sa piétaille.
Le vétéran soupira.
Le suzerain a-t-il péché par précipitation ou par orgueil? Claudas m'a dit que le duc avait soumis des prisonniers à la question et qu'il avait appris que Vekinsberg n'était plus occupé que par 2 ou 3 000 hommes du clan Hartclyde. Ganelon cherchait à reprendre la ville avant que l'ennemi ne reçoive des renforts. Il craignait aussi que Ferbassac, plutôt que de se laisser enfermer, ne se replie sur l'autre rive de la Claye après avoir incendié la place. Or, les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Quand les troupes bromaloises sont arrivées en vue de Vekinsberg, Ferbassac a offert le combat. Ses forces étaient pourtant inférieures à celles du duc, environ 3 000 hommes d'après Claudas, contre les 4 000 chevaliers et écuyers de Bromel. Les Hartclyde ne sont pas moins sortis des murs pour se déployer sur la plaine de Breckzan. Ils ont formé un rempart de boucliers à 2 portées d'arc de la Béchanclay. Le bras du fleuve formait un obstacle pour les troupes du Cal. Mais le pont d'Aberbéchan ne semblait pas gardé. Les chevaliers du banc de Traval s'en sont rapidement emparés. D'après le seigneur de Kimark, il y a eu débat dans le conseil du duc. Certains barons, comme les seigneurs de Maginois et de Trèfle, craignaient une fourberie de l'ennemi. Mais la plupart des capitaines n'ont vu que l'infériorité des troupes barbares et l'opportunité de reprendre rapidement Vekinsberg. Claudas lui-même, tout en mettant en garde contre une ruse du chef barbare, a malgré tout encouragé à attaquer. En plus, tous ses seigneurs étaient encore grisés par la victoire de Rosmaenor. Le duc a donc ordonné de livrer bataille.
D'un geste, le frère Vinmer réclama à boire. Quel, qui, poussé par la curiosité, s'était faufilé dans la tente, remplaça la gourde vide par une fiasque pleine avec une remarquable diligence.
« C'est alors que s'est noué le désastre, »
reprit Vinmer, après avoir avalé quelques gorgées.
« La chevalerie a franchi le pont d'Aberbéchan mais le passage formait un goulet d'étranglement pour une cavalerie si nombreuse. Le premier conroi, commandé par le connétable de Traval et Lanval de Bromel, ont harcelé le mur de boucliers ennemis pour laisser le temps au reste des troupes de prendre pied sur la berge et de se déployer. Cela a tenu les barbares en respect un moment. En fait, Ferbessac laissait les nôtres s'avancer dans la nasse. Quand un peu plus de la moitié des escadrons ducaux se sont retrouvés sur la rive gauche de la Bechanclay, le piège s'est refermé. Ce félon de Ferbessac avait posté des hommes dans le bras du fleuve, cachés sous les arches du pont. Ils étaient peu nombreux et légèrement équipés, mais c'étaient des fous furieux, de ces enragés que les Ouromans appellent des guerriers fauves. Et ils étaient menés par le plus sanguinaire de tous, le champion connu sous le sobriquet du Drotte. Ils ont profité de la surprise et de l'étroitesse du passage pour frapper. Ils ont attaqué les chevaux plutôt que les cavaliers, provoquant une bousculade meurtrière. La plupart des assaillants ont été tués, mais le mal était fait. La chaussée du pont se trouvait obstruée par un amoncellement de destriers morts ou blessés. Et une poignée de ces enragés résistait encore avec le Drotte sur un talus de charogne. Sitôt qu'il a vu que le pont était attaqué, Ferbessac a donné le signal de l'assaut. Sa horde était un peu supérieure en nombre aux escadrons qui venaient de passer sur la rive gauche. Les troupes ducales n'étaient pas encore rangées en ordre de bataille, et la charge des Carles les a privés du champ nécessaire à la manœuvre. Au cours de la mêlée, les barbares continuaient à abattre les chevaux. Les nôtres ont été peu à peu refoulés vers le fleuve. Un certain nombre a trouvé la mort en combattant. La plupart se sont noyés.
Un silence lourd suivit ces paroles.
« Quelle calamité ! »
soupira le sire de Froec.
Voilà où les désordres de sa maison ont mené Ganelon,
grinça le frère Vinmer.
La divine tétrarchie s'est détournée du duché.
Le chevalier aux épines demeura impénétrable. Peut-être voilait-il ses sentiments parce qu'il se sentait concerné par le blâme du frère sergent.
« Mais, monseigneur, Claudas dans tout cela !» reprit Gérian de Froec. « Il avait franchi le pont puisqu'il a été capturé. Comment a-t-il échappé au massacre ?»«
Il m'a raconté qu'il n'avait pas été refoulé dans la Bechanclay parce qu'il combattait en première ligne. » Il a assisté à la mort de quantité de champions et de seigneurs bromalois. Ont chèrement vendu leur vie le connétable Anaro de Traval, le seigneur d'Ilsin de Maginois, les chevaliers Bérard d'Estrif, Herluin l'Aîné et Bruin de Bangarde, oui, le vaillant Froisfer en personne. Claudas de Quimarc n'a échappé à la mort que parce qu'il avait festoyé et échangé des cadeaux avec le roi Hartclyde par le passé. Ferbessac a empêché que ses hommes le tuent et a préféré en tirer une rançon.
Le visage du sire de Froec demeurait soucieux et grave. La relative clémence dont avait bénéficié son seigneur n'avait pas l'air de lui apporter grand réconfort.
Frère Vinmer, enchaîna-t-il. Vous avez montré de la défiance envers notre compagnon Sir Hamelin. Vous avez même lancé une accusation sévère à son encontre. Pouvez-vous nous éclairer sur ce qui motive vos propos ?
Ce Mauffet est un traître. C'est un ravisseur. Il a parti lié avec l'ennemi. Je l'ai vu de mes propres yeux.
Sir Hamelin est étranger à Bromel comme à Louromagne.
intervint le chevalier de Vaumacel. Il a servi d'intermédiaire entre le chef Hartclyde et le comte de Kimark.
Le vétéran grimaça un rictus de dégoût.
« Croyez-moi,
grommela-t-il,
il ne s'est pas cantonné au rôle de messager. Il a renseigné Ferbassac. Il est complice de ses crimes. »
Je peine à concevoir un preux aussi raffiné en train de se commettre avec un chef barbare,
objecta le sire de Vaumacel.
Comment l'avez-vous appris? Renchérit le sire de Froec. Vous nous dites avoir passé une grande partie de votre captivité au cachot.
Le jour de mon arrivée avec Innsberg, j'ai été mis en présence de Ferbassac. C'est à cette occasion que j'ai vu votre compagnon dans l'entourage du roitelet ennemi. Et je l'ai entendu plaisanter d'un meurtre ignoble commis par ce chien Hartclyde.
Il faudrait nous éclairer davantage. Nous serions ainsi à même de juger quelles précautions il convient de prendre.
Que vous importe le détail? J'ai vu Ferbassac tuer sans remords un homme de grand renom et de grande sagesse. Votre elfe était présent, lui aussi, non en qualité de prisonnier, mais en qualité d'hôte. Pourtant, il n'a pas cherché à intervenir. D'une certaine manière, il a même fait l'éloge du crime.
La voix du frère Vinmer vibrait d'indignation, et ses mains se mirent à trembler de colère.
Qui a été tué?
Demanda le sire de Froeck sur un ton presque compatissant.
Quelle importance! Tant de hauts hommes ont péri. Laissons les morts aux desséchés. Il est de notre devoir de sauver les vivants. C'est pourquoi je vous dis et vous répète, gardez-vous de l'elfe. J'ignore tout de ses raisons, mais ce bel oiseau ouvre la voie au loup.
Le chevalier de Froeck s'apprêtait à insister en quête de précision, mais le sire de Vaumacel l'interrompit en lui posant la main sur l'épaule. « Le frère Vinmer sort de captivité, rappela-t-il. Il est visiblement éprouvé, et nous l'avons suffisamment fatigué avec nos questions. Laissons-le se reposer un peu, nous pourrons reprendre cette conversation quand il aura recouvré quelques forces. » Le banneret parut sur le point de protester, mais se contint.
« Vous avez raison, » convint-il un peu sèchement. « Nous avons déjà du grain à moudre avec ce que vous nous avez appris, frère Vinmer. Prenez quelques repos. »
D'un signe de tête, il fit signe au chevalier de Vaumacel de le suivre. Une fois hors de la tente, ils gagnèrent un coin à l'écart. Puis Gérian de Froeck se retourna brusquement face à son compagnon.
« Cyrdan, pourquoi interrompre l'entretien ? » demanda-t-il tout de go. « Parce que c'est plus sage. »« Plus sage ? Vraiment ? Je ne vous suis pas du tout. Et pourtant, je mettrai ma main au feu, que vous en conviendrez quand je vous aurai exposé mon point de vue. »
Baissant un peu le ton, le chevalier de Vaumacel poursuivit.
« Sir Gérian, si nous laissons le frère Vinmer développer ses accusations, et qu'elles paraissent recevables, en tant que vassal du comte, vous serez forcé d'en demander raison à Sir Hamelin. Est-ce le moment opportun, alors que nous sommes en territoire ennemi? Soit les allégations du frère sergent sont fondées, et Sir Hamelin prendra la fuite pour rejoindre les Hartclyde, à moins qu'il ne vous défie pour laver sa réputation. Soit le frère Vinmer se trompe, vous offenserez mal à propos notre ami, qui vous demandera plus sûrement encore réparation par les armes. Vous savez comme moi qu'il n'est pas adversaire à prendre à la légère, et de toute façon ce n'est ni le lieu, ni le moment. »
Le banneret prit le temps d'examiner l'argument et reconnut qu'il était sensé.
« Toutefois, objecta-t-il, ce qu'au resplendissant ne plaise. Supposons que Sir Hamelin soit vraiment de mèche avec les Hartclyde. Ce serait folie de ne rien faire. Eh bien, gardons-nous secrètement de lui, mais n'agissons pas de façon inconsidérée. De toute façon, même s'il était félon, mieux vaudrait le surveiller de près
plutôt que de le laisser rejoindre l'ennemi. Mais je doute fort que nos soupçons soient fondés, et je serai prêt à répondre de la droiture de Sir Hamelin devant une cour. »
Gérion de Froeg fit quelques pas, affichant une expression partagée.
« J'accorde plus de foi à votre parole qu'à celle d'un inconnu, » finit-il par admettre. « Je serais toutefois aise que vous m'en disiez davantage sur ces aventureux du bois Oiselet. Après tout, ce sont vos amis. N'est-ce point vous qui les avez amenés à l'Indinas ?»«
Avez-vous eu sujet de vous en plaindre ?»«
Au contraire. À vos côtés, Sir Hamelin a renversé la situation lors des commensailles. Il a permis que le tournoi eût lieu. Son bras et celui du chevalier au coucou nous ont été un soutien précieux pendant le pas d'armes. Mais je n'oublie pas que le chevalier Auget avait rejoint le camp du dehors. Et quoique Sir Hamelin soit un compagnon d'une exquise courtoisie, j'ai toujours peine à le cerner. Que pourriez-vous me dire qui dissipe mes doutes à son propos ?
Pour vous parler en toute franchise, je ne le connais que de fraîche date. Notre alliance n'en est pas moins solide. Nous avons une allégeance en commun. Nous servons la même dame. C'est au nom de cette fraternité d'armes que j'ai requis et obtenu l'appui des aventureux du bois Oiselet. Or, croyez-moi, je n'ai que haine et mépris pour les Ouromans. Ayant parti lié avec moi, Sir Hamelin partage assurément ce sentiment.
Sir Hamelin est donc un chevalier servant de la duchesse Odéhard, s'étonna le sire de Froeck.
Le chevalier de Vaumacel lui adressa un sourire énigmatique.
J'ai dit que nous étions au service de la même personne, glissa-t-il. Pour autant, ai-je mentionné Dame Odéhard ?
C'est que ces aventureux viennent de si loin. Et jamais je n'avais entendu parler de leur visite à la cour ducale, pas plus qu'à la cour de Kimark ou de Brockmel. Cette suggestion à la duchesse a de quoi surprendre. Mais pardonnez-moi, je ne voulais en rien vous détourner de votre devoir de discrétion.
Votre délicatesse vous honore.
Le chevalier de Froeck parut peser soigneusement ses mots, puis poursuivit à voix basse.
« J'espère que vous ne prendrez pas ombrage de mon insistance, mais
ne croyez-vous pas que la duchesse Odéhard pourrait jouer les Ouromans contre Ganelon ?»«
Je l'ignore. Voilà des années que je n'ai plus eu l'honneur de m'incliner devant Madame Odéhard. » Je conçois toutefois assez mal qu'une dame d'une si grande élévation puisse user de ses rustres.
Elle a subi une tentative d'assassinat. On pourrait excuser qu'elle fasse flèche de tout bois contre le duc.
J'espère bien que Ganelon paiera cet attentat au prix fort. Au besoin, si je parviens à m'en ménager l'occasion, je m'y emploierai en personne. Mais le geste criminel est trop récent. Ferbassac venait de conquérir Vikingsburg quand le guet-apens a été ourdi. On ne peut penser que sa blessure a poussé la haute dame dans le parti du barbare. S'il y avait eu alliance, elle serait remontée à plus loin. Or, Madame Odéhard était encore captive que les Ouromans s'apprêtaient déjà à fondre sur nos terres.
Haussant une épaule, le sire de Vaumacel ajouta,
en outre, en ce qui concerne notre affaire, je vous rappelle que je n'ai nullement affirmé l'existence d'un lien entre Sir Hamelin et Dame Odéhard.
En somme, nous voici bien avancés,
rétorqua le chevalier de Froeck avec humeur. Le visage tendu, le banneret prit le temps de la réflexion.
Nous ne maîtrisons pas la situation,
reprit-il avec plus d'irritation que d'inquiétude.
« Ce tan barbare nous lanterne. Est-ce lui qui fait monter l'enchère ? Est-ce son maître ? Pourquoi nous dissimuler Monseigneur Clodas ? Même si ce maudit Ouroman cherchait à obtenir davantage, il nous aurait mieux appâté en nous donnant son prisonnier à voir plutôt qu'en nous vendant ce sergent. D'ailleurs,
S'il y a un traître dans notre affaire, n'est-ce pas ce Vinmer? Son témoignage pourrait servir à couvrir un malheur.
Je vous l'ai dit, j'ai confiance dans l'honnêteté du frère Vinmer.
Ah! Vous ne me simplifiez pas la tâche, Edan. Vous répondez de deux personnages qui sont chien et chat. L'un d'eux est forcément de mèche avec l'ennemi.
J'incline plutôt à croire qu'on aura trompé le frère Vinmer. Considérez la bataille d'Aberbechan, Sir Gérien. La victoire y a été remportée par ruse. Fer Bassac ne fait pas mentir sa réputation de fourberie. Il est à craindre qu'il ne nous aura cédé le frère Vinmer que pour mieux nous duper.
Le chevalier Banneret hocha la tête avec réticence.
« Si vous voyez juste, » gronda-t-il, « alors le barbare cherche à nous voler. »
« Quoi de surprenant de la part d'un félon ?»«
Ce maudit Tan du Farbog a tout de suite vu que nous ne transportions pas l'or. C'est peut-être cela qui nous a épargné une affaire assez brutale. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est qu'il avait prévu cette possibilité et amené un otage de substitution. Il s'est montré exigeant et menaçant, mais a cherché malgré tout à maintenir la négociation ouverte.
Si vous voulez mon sentiment, il ne croit pas réellement obtenir 600 ou 800 marks. En revanche, il cherche à faire main basse sur l'or que nous apportons sans délivrer Monseigneur Claudas.
Oui, cela tombe sous le sens. Ce qui signifie que nous sommes en grand péril.
Sans se donner la peine d'en dire davantage, les deux hommes se dirigèrent vers un escalier qui grimpait sur la courtine. Encombrés de gravats et de cendres, les marches menaient à un chemin de ronde partiellement détruit, dont le our avait flambé. Foulant une muraille ébréchée et les poutres calcinées qui pointaient vers le vide, les chevaliers scrutèrent la vaste plaine littorale en direction de Vikingsburg. Poussés par la brise de mer, des nuages de beau temps dérivaient au-dessus de la côte, oscillant le paysage d'ombres légères et de prairies ensoleillées. Sur ce panorama de jonchères, de dunes herbeuses et de pâtures, ils ne distinguèrent guère de mouvements. Des envols d'oiseaux, deux cerfs aventurés loin des lisières et peut-être, du côté du delta de la Claye, une bande qui ressemblait à une colonne de fourmis en marche vers la ville. Sur la ligne d'horizon, la pierre et l'ardoise des remparts souriaient dans la lumière d'été avec l'indolence des mirages. Plus proche de Bantraet, les ruines carbonisées d'un hameau de pêcheurs déparaient cependant cette côte telle un vilain furoncle. Les deux preux eurent beau inspecter la contrée, ils ne distinguèrent aucune menace à plusieurs lieues à la ronde.
« Ne relâchons pas notre vigilance !» dit cependant le sire de Froek. Les Ouromans ont sans doute deviné où nous étions retranchés.
Ils seraient avisés de doubler les postes de garde cette nuit.
En effet. Et demain, nous ne nous éterniserons pas. Cette place est déjà tombée plusieurs fois. Ferbassac et ses valets seront sans doute tentés de renouveler l'assaut pour faire main basse sur la rançon.
Les chevaliers contemplèrent avec défiance la cité perdue, dans le lointain nébuleux.
Même si nous ne sommes pas attaqués cette nuit, la rencontre de demain sera encore plus périlleuse que celle d'aujourd'hui,
estima le sire de Vaumacel.
Si vous le souhaitez, je peux me porter seul au-devant des Ouromans, pour jauger leurs intentions et vérifier qu'ils ont bien amené le seigneur Claudas. Il suffirait que je ne revienne pas à la mi-journée, pour que vous soyez fixés sur les intentions hostiles des barbares. À défaut de délivrer le fils du comte, vous sauveriez alors les hommes et l'or de Kimark.
Voilà une proposition pleine de noblesse, mais je ne peux y souscrire.
Regardant en face le chevalier aux épines, le sire de Froek demanda
« Comment pourrais-je reparaître devant mon suzerain si je n'avais pas essayé en personne ?» de libérer son fils.
Secouant la tête, il conclut « L'honneur m'impose d'y retourner. Et la prudence nous recommande d'amener avec nous Sir Ameline. Pour peu que ce sergent Vinmer le calomnie, l'écarter serait lui faire injure. En fait, n'est-il pas étrange que l'homme qu'il accuse de complicité avec Ferbassac
viennent précisément de nous être vendus par les sbires de Ferbassac. Le frère sergent est probablement de bonne foi, je vous l'accorde. Pour autant, cela l'empêcherait-il d'être le jouet d'une fourberie Hartclyde ?